Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous. Et à la une de notre émission ce soir, l'histoire d'un meurtre résolu spectaculairement après 19 ans de mystère par un hasard extraordinaire, une comparaison ADN grâce au fichier automatisé des empreintes génétiques. Le 8 décembre 1987, Evelyne Boucher, une lycéenne en classe de première qui habitait à Villeneuve-les-Avignon, était sauvagement agressée, violée, abattue d'une balle de 22 longs rifles. Un premier suspect, un voisin routier qui avait un alibi bancal, sera mis très vite hors de cause. Son groupe sanguin, en effet, ne correspond pas à celui qui a été identifié grâce au sperme du violeur. Aucune autre piste ne permet à l'enquête de progresser. Mais en 1993, il est désormais possible d'extraire l'empreinte génétique de l'agresseur. Tous les suspects et les proches sont alors soumis à des prélèvements et à des comparaisons qui ne donnent rien. Les enquêteurs vont soupçonner également, pendant leur enquête, quelques stars du crime comme Roberto Succo, Michel Fourniret, Luc Tangor ou encore Émile Louis. Les empreintes génétiques de ceux-ci seront comparées à celles du violeur d'Evelyne Boucher, mais toujours sans succès. Et puis, en mai 2002, enfin, le fichier automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, est créé et l'ADN de toutes les personnes ayant affaire à la justice, d'abord pour des agressions sexuelles, puis assez vite ensuite pour tous les délits avec violence, est introduit dans la base de données. Et c'est ainsi qu'en 2003, un pompier de Pont-du-Gard, Robert Greiner, est impliqué dans une bagarre avec les vigiles d'un parking. On prélève son ADN, mais on l'introduit, on va dire tardivement, dans le FNAEG, parce qu'il a beaucoup résisté au fait de pouvoir, d'accepter de donner son ADN. Et là, surprise, en 2005, 19 ans, 18 ans après le viol et la mort d'Evelyne Boucher, la comparaison automatique signale la correspondance à plus de 99,9% de l'ADN de Greiner avec l'ADN qu'on avait prélevé sur le corps d'Evelyne. Mais Robert Greiner continue à nier avoir tué Evelyne Boucher et son avocat nous dira ce soir qu'il envisage de demander même la révision du procès. Robert Greiner, précisons-le, a été condamné en 2008 et 2009, donc en appel et peine confirmée en 2010 par la Cour de cassation à la prison à perpétuité. Pour parler de cette affaire Boucher qui va devenir l'affaire Greiner, j'ai invité la réalisatrice et journaliste et réalisatrice de télévision Imen Gwali. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. L'histoire est très ancienne. Robert Greiner est actuellement en prison. Il a été condamné, on l'a rappelé tout à l'heure, en 2008 et 2009, tout cela confirmé par la Cour de cassation en 2010 à la prison à perpétuité. Il est actuellement, donc il continue à purger sa peine à Salon de Provence. On aura tout à l'heure son avocat, maître Patrick Gontard, du barreau d'Avignon, qui, déjà au moment du procès, avait manifesté les doutes qu'il avait sur la culpabilité de Robert Greiner, qui pourtant paraissait évidemment, à la justice en tout cas de l'époque, être tout à fait accablante. Mais bon, on verra cela avec lui tout à l'heure. Et vous, vous aviez réalisé, après ce procès, un documentaire de télévision qui était passé dans l'émission « Faites entrer l'accusé ». Et on va pouvoir s'apercevoir que cette histoire était véritablement exceptionnelle. J'imagine qu'elle n'était pas sortie de votre mémoire.
Non, c'est une histoire quand même qui est assez marquante. Cette jeune fille qui disparaît, qu'on cherche, dont la mère s'entête vraiment avec courage et beaucoup de dignité, et qui a été suivie, heureusement, par la justice, et notamment un juge d'instruction qui a tout fait pour que cette histoire ne meure pas, enfin voilà, et ouais, pour la mémoire d'Evelyne, qu'on retrouve son assassin, ouais. Et ça a eu lieu de façon absolument incroyable 19 ans plus tard.
Voilà, et ça a été une des premières fois où l'ADN a prouvé que la présence des ADN dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques pouvait permettre de résoudre des affaires même très anciennes. Alors, je voudrais qu'on prenne les choses au départ pour parler d'abord de la personnalité de cette jeune fille. Evelyne Boucher, elle a 16 ans à l'époque, en décembre 1987, et elle habite chez ses parents. Non, elle habite pas chez ses parents.
Elle habite avec sa mère. Ses parents sont divorcés.
Parce que ses parents sont divorcés.
C'était une famille recomposée à l'époque, puisqu'il y avait son beau-père qui avait aussi ses propres enfants et elle, y vivait tous ensemble et ça se passait bien.
Alors ça se passe bien. Elle a c'est une lycéenne, donc de temps en temps elle fait l'école buissonnière. Elle fréquente notamment avec beaucoup d'autres copains copines du lycée quand elle n'est pas en cours un bistrot. Qui s'appelle le Carnot, je crois.
Tout à fait, tout à fait. Alors, Evelyne, c'est une jeune fille dont tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est solaire. Elle est drôle, elle est sympathique, elle est intelligente, elle est sportive, et puis elle va dans ce bar. Elle a un petit copain à l'époque, mais elle en pince, on va dire, pour un serveur de ce bar, dont sa meilleure amie disait qu'elle pouvait passer des heures à le regarder, tellement elle le trouvait beau.
Ouais.
Et sauf que ce garçon, qui a 21 ans, alors qu'elle n'en a que 16, va lui faire entendre raison et lui expliquer que cette différence d'âge ne peut pas, que ça peut pas marcher entre eux. Ouais. Et donc elle va retourner vers son copain. A priori, ça l'a pas traumatisé plus que ça. Mais en tout cas, oui, c'était une jeune fille de son âge qui était très appréciée, vraiment très appréciée.
Voilà. Et puis, c'est une jeune fille, en fait, sans histoire.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle va disparaître, c'est-à-dire que elle rentre de l'école un jour. Elle est accompagnée d'ailleurs par une de ses copines, mais à un moment, elle va continuer vers chez elle. Et là, il faut qu'elle passe dans un endroit quand même sombre, mal éclairé, quelques centaines de mètres.
Exactement. En fait, c'est une résidence qui est un petit peu isolée dans les hauteurs, où il y a plusieurs lotissements. Enfin, on va dire plusieurs pavillons.
On est à Villeneuve-les-Avignon.
Et effectivement, elle quitte sa copine qui, elle, est arrivée chez elle et il lui reste pas grand-chose. Je crois que c'est 200 ou 300 mètres à parcourir, mais c'est vrai que c'est une ruelle qui est assez sombre et pas fréquentée. Et là, elle se volatilise. Vraiment, elle disparaît.
Alors, il va y avoir un témoignage qui, au départ, a été pris en compte, bien sûr, parce que les enquêteurs n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent comme indice. On n'a pas retrouvé d'arme du crime, même si on sait qu'elle a été tuée par une balle de 22 long rifle. Mais il n'y a pas de témoin, il y a très peu d'éléments pour l'enquête. Il y a une personne qui habite dans ce quartier qui va donner un témoignage aux policiers.
Oui, c'est une jeune fille qui a l'âge d'Evelyne, qui fréquente le même lycée, etc. Et dont on suppose qu'elle devait un petit peu s'ennuyer parce qu'elle regardait un petit peu ce que faisaient les gens. Et elle voit Evelyne passer, rentrer, donc la première fois en voiture, à pied, pardon.
Oui,
et elle la voit ensuite repasser dans l'autre sens, dans une petite voiture qu'elle décrira comme pouvant ressembler à une Renault 5, voiture d'époque. Claire, donc blanche ou claire, avec un homme
qui conduit, et
Evelyne qui est à l'arrière.
Elle est derrière, elle est penchée vers l'avant, dit-elle, mais c'est quand même assez curieux comme situation que cette jeune fille soit sur la banquette arrière de la voiture. Elle voit passer la voiture à la vitesse de la voiture. Alors quand on lui demande de décrire le personnage, sa description est quand même très vague.
Elle dit que c'est quelqu'un, que c'est un homme blanc qui est assez trapu, corpulent, elle pense que c'est un sportif, et qu'il a des cheveux un petit peu bouclés. Bon, il faut dire qu'elle avait une certaine
coiffée vers l'arrière.
Elle avait une certaine curiosité, elle regardait, elle voulait savoir où allait sa copine et pourquoi elle avait le droit de sortir un soir de semaine alors qu'elle était coincée chez elle.
C'est ça qui l'avait frappée, c'est pour ça qu'elle se souvient de cette scène-là. Alors, ça, c'est le tout début de l'enquête. Malheureusement, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, un voisin qui est un chauffeur routier qui trafique plus ou moins d'ailleurs je sais pas comment ça s'appelle.
Son disque,
va être soupçonné par les enquêteurs à un moment. Sauf que, à l'époque, on ne peut pas extraire un ADN de sperme. On a trouvé du sperme, elle a été violée. Mais, en revanche, on peut trouver le groupe sanguin de la personne. Or, cet homme-là va être mis hors de cause parce qu'il n'a pas le même groupe sanguin que l'agresseur. Nous sommes en compagnie de la journaliste et réalisatrice de télévision Imane Gouali. Je vous ai demandé de venir en parler parce que l'affaire est quand même exceptionnelle. D'abord, parce qu'elle a été une des premières où un assassin présumé, mais qui a été condamné ensuite pour assassinat, pour meurtre, a été rattrapé par son ADN, si j'ose dire. Et puis on verra tout à l'heure avec l'avocat de ce monsieur, Patrick Gontard, maître Patrick Gontard du barreau d'Avignon, on verra que malgré ce qui semble être une preuve accablante, la présence de son ADN, qui n'est pas un ADN de contact, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien cette preuve ne suffit pas à l'avocat qui continue à avoir un doute sur le fait, non pas qu'il ait eu un rapport sexuel avec cette jeune femme, mais ce que cet homme a toujours nié, il a toujours nié l'avoir tué. Voilà. Alors, on verra tout à l'heure ce qu'il faut en penser, mais si on continue l'enquête, donc 1987 jusqu'en 1993, il ne se passe rien.
Ben, il ne se passe rien, il se passe des choses, il se passe des vérifications, oui. On cherche, les policiers font travailler selon la méthode qu'on appelle de l'escargot, c'est-à-dire qu'ils partent de l'endroit où a eu lieu le crime et ils élargissent. Et ils ont beau élargir, ils ont beau entendre toutes les personnes qui ont eu un passé criminel d'affaires de meurtre, de viol en tout cas, oui. Ça ne donne rien. Ils vérifient des centaines et des centaines de plaques d'immatriculation, de Renault 5, de retrouvailles
propriétaires. Oui, on cherche cette fameuse
Il cherche vraiment dans tous les sens. Je crois que la personnalité de la mère d'Evelyne Boucher y est pour beaucoup.
Oui.
Puisque c'est une femme qui a su créer un vrai contact avec les policiers et travailler en osmose avec eux. Elle, de son côté, elle fait aussi
son enquête. Je parlais de la prime qu'elle progressait et qu'elle promettait de l'ordre de 200 000 francs. Quoi,
Tout à fait. Voilà. Ils ont essayé de proposer une récompense. Ils ont placardé des affiches. À l'époque, même, elle était venue vous voir sur le plateau de l'émission Témoin numéro 1. Il y avait eu un appel à témoins qui avait été lancé, et malgré
toutes ces pistes,
d'ailleurs, ça ne donne rien. Voilà. Et au bout d'un moment, tout le monde a un peu envie de laisser tomber, sauf cette madame. Voilà.
Et puis elle sait que 1993, c'est une date que tous les généticiens connaissent, parce que c'est là qu'on peut extraire d'un sperme, par exemple, ou même de sang, un profil ADN.
Exactement. Ouais. Et le juge d'instruction qui a suivi cette histoire pendant 15 ans, avant de partir pour sa dernière action, on va dire, a décidé de verser de l'aide qui a été prélevé sur le corps d'Evelyne Boucher au FNAEG, qui est le fichier...
C'est ça, ça c'est 15 ans, c'est-à-dire que entre 93 et puis 2002, puisque la création du fichier est en 2002, il n'y a pas de fichier automatique, mais on va se servir de cet ADN qu'on a pour le comparer avec tous les suspects, évidemment.
Exactement.
Et là, on va le comparer à, je sais pas, plus de 60 personnes, je crois.
Oui, tout à fait. On va déjà faire un petit peu tout l'entourage, toutes les personnes qui ont été signalées, les proches d'Evelyne Boucher, son propre père, son propre beau-père ont été testés, parce que les policiers ne veulent écarter aucune piste, mais tout ça ne donne vraiment pas grand-chose.
Alors, peut-être, Imane Gouali, vous pouvez nous rappeler en quelques mots, parce que j'y ai fait allusion tout à l'heure, ce qui montre qu'on cherche vraiment tous les azimuts. Roberto Succo, qui effectivement est un tueur en série dont on a beaucoup parlé à l'époque, Michel Fourniret, enfin d'autres, on va aller vérifier, on va même exhumer le cadavre de Roberto Succo, qui est mort entre-temps, qui a été tué, pour voir si ça n'est pas son ADN.
On ne laisse de côté aucune piste, et on se dit, si c'est pas quelqu'un de l'entourage, c'est pas quelqu'un qu'elle connaît, est-ce que ça peut être un de ces tueurs fous, le tueur fou, c'était le surnom de Roberto Succo, on va effectivement aller chercher ces grands noms du crime, malheureusement et tristement, pour se demander s'ils n'ont pas pu passer par là et commettre ce forfait-là, et on va écarter comme ça les pistes une à une, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, et à chaque fois on revient au point mort et à la mystérieuse disparition de cette jeune fille qu'on retrouve malheureusement violée et assassinée le lendemain matin aux abords d'une forêt.
L'invité de l'heure du crime ce soir, la journaliste et réalisatrice de télévision Imane Gouali, qui a donc réalisé un documentaire de télévision sur l'affaire Grainer, mais qui a été pendant 19 ans l'affaire Evelyne Boucher, puisque c'était un grand mystère, un cold case, comme on dit. Et d'ailleurs, on a parlé des faits de l'enquête, Imane Gouali, assez peu finalement de la personnalité de la maman d'Evelyne Boucher, qui a été vraiment un pilier de cette enquête, mais est parfaitement étayée par un juge d'instruction extraordinaire aussi, et vous avez rencontré les deux. Alors, qu'est-ce qui vous reste de ces rencontres et de ce combat qu'ont mené ces deux personnes, j'allais dire des deux côtés chacun travaillant, l'un pour la justice, mais l'autre, évidemment, au cœur de ce drame,
C'est vraiment assez rare qu'on voit ce genre de relations dans les affaires judiciaires. Oui. J'en ai quand même suivi beaucoup, et souvent, les relations sont cordiale. Parfois, ça se passe pas bien, mais c'est rare qu'il y ait une telle alchimie entre une partie civile, donc une maman de victime, et un juge d'instruction. Ouais. On sent que ce monsieur Lernoux, donc c'est son nom, a été vraiment touché par cette affaire et par la détresse de cette femme. Et il s'est fait une promesse qui était d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ils avaient tous les deux un ennemi commun qui s'appelle la prescription. L'affaire, au bout de 10 ans, s'il ne se passe plus rien, il faut clore le dossier parce qu'il y en a des tas d'autres à régler. On ne peut pas indéterminément chercher.
Alors, régulièrement, il trouvait des prétextes.
Des parades, on va dire.
Des parades judiciaires, juridiques.
Puisqu'en France, en fait, la prescription court non pas à la date du crime, mais à la date du dernier acte judiciaire qui a été fait. Donc, régulièrement, la maman écrivait des lettres, demandait qu'on fasse telle ou telle vérification. Oui. Parfois, c'était totalement prétexte. Le but étant simplement de faire en sorte qu'on ne ferme pas le dossier et qu'on continue de chercher. Madame Cronier, on la comprend, ne pouvait pas accepter l'idée que l'assassin de sa fille soit dans la nature. Ouais. Elle s'était jurée de lui rendre justice et elle n'a jamais lâché l'affaire et elle a réussi. Et je trouve ça remarquable.
Ouais. Et alors cet homme, vous êtes allé aussi l'interviewer, évidemment, ce magistrat. Et quand vous lui avez demandé comment il avait réagi lorsque il n'était plus chargé de l'affaire quand le pompier Robert Greiner a été rattrapé par son ADN, comment a-t-il réagi ?
C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la pudeur, donc qui s'exprime. Déjà, ça a été compliqué d'ailleurs de l'interviewer, de le convaincre de participer au documentaire, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'exposer. Et voilà. Mais ce qui est sûr, oui, c'est qu'il me l'a dit après en off, il le dit même face caméra dans le documentaire, c'est le plus beau moment de sa carrière. Il était parti en laissant cette affaire derrière lui, elle n'était pas résolue. Il avait pris soin de verser cette empreinte génétique au FNEG, il avait pris soin de demander à sa successeur de continuer ce dossier.
Il a d'ailleurs immédiatement prévenu, d'ailleurs.
Exactement. Ouais. Et il était parti en laissant, je pense, cette affaire derrière lui qui devait continuer de le hanter. Mmh. Et le fait de savoir que les efforts qu'il a fournis ont payé, ça a été, je pense, une des plus grandes satisfactions de sa carrière de juge, quoi. Et c'est assez rare voilà.
Mais c'est pas habituel.
C'est pas habituel de voir des magistrats s'impliquer aussi avec autant d'humanité dans une affaire.
Mmh. Ou alors, ils ont pour beaucoup cette pudeur extrême, encore plus pudique que celui dont vous parlez, qui effectivement est un homme très très... Il ne roule pas des mécaniques, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin, d'autres sont très avares de ça, au risque qu'on puisse penser quelquefois que la justice est inhumaine, parce qu'ils n'ont pas les réactions qu'on attendrait d'eux, mais ils considèrent que leur fonction leur interdit de se laisser gagner par l'émotion. Alors, maintenant, on va prendre le temps pour que vous nous racontiez comment, en fait, Robert Greiner arrive dans cette affaire et pourquoi il y avait un lien entre cet homme et... avant qu'on découvre le lien avec l'ADN, il n'y avait aucune raison de penser que cet homme était mêlé d'une quelque façon que ce soit à l'affaire Evelyne Boucher. Quand même.
Ah bah le nom de Robert Greiner n'est jamais sorti dans cette affaire. C'est un pompier qui est beaucoup plus âgé qu'Evelyne Boucher, dont on n'imagine pas qu'elle puisse avoir le moindre contact avec lui. Mmh. Et en fait, son nom va arriver de façon assez extraordinaire. Oui. Et à la fois très bête pour lui, mais bien heureuse pour la justice.
Parce qu'à l'époque, à l'époque, il est dans la région, à Villeneuve-les-Avignon ?
Oui, il est dans la région, il vit à Avignon avec sa femme, qui est sa deuxième épouse, et leurs deux enfants, et il travaille à la caserne d'Avignon, qui, à l'époque, avait une petite caserne dans le centre-ville, dont on va s'apercevoir ensuite qu'elle est juste en face du lycée où était scolarisée Evelyne Boucher.
Et pas loin non plus du gymnase où elle s'entraînait, parce qu'elle elle adorait la gymnastique à un très haut niveau. Hein. D'ailleurs, elle pratiquait à un très haut niveau. Et donc, tout ça fait qu'a posteriori, on a compris qu'il était tout à fait vraisemblable que Greiner, non seulement ait croisé cette jeune femme, mais l'ait vue et se soit intéressé à elle, quoi, en fait.
Exactement. Il y avait forcément un lien, puisque de toute façon, on a retrouvé son empreinte génétique.
Bien sûr.
En plus, dans les parties génitales de la jeune fille. Donc, à un endroit où ça ne peut pas être juste du contact et il s'agit de sperme. Donc, forcément, il y a eu une relation.
Il y a eu une relation, en tout cas sexuelle, entre eux. Ce qu'il nie après, c'est le crime, bien sûr. Alors, comment ça se passe en 2003 ? Il vit à Pont-du-Gard, il exerce toujours la profession de pompier.
Exactement, et en fait il se rend avec sa femme et sa famille, etc., son beau-frère, visiter le Pont-du-Gard, et sa femme perd le ticket
parking de la voiture, d'accord.
Exactement. Ouais. Donc au moment de sortir, ils font des tours, et puis à un moment de sortir, il en a assez, il décide de gruger, entre guillemets, passer.
Il essaye de sortir derrière quelqu'un qui connaît,
derrière une autre voiture, ouais. Exactement, la voiture de son beau-frère. Ouais. Là, les vigiles débarquent, le ton monte apparemment assez vite, ça part en bagarre générale. Ouais. Le Robert Greiner, le beau-frère, les vigiles, etc. Ouais. Tout ce petit monde se retrouve au poste. Et donc, il va être condamné à 3 mois de prison avec sursis de mémoire. Ouais. Et notamment, il fait partie maintenant, comme c'est une agression, la loi vient de changer. Et y compris pour ce genre de délit, on doit verser son ADN au FNAEG, qui est le fichier où on recense tous les ADN des personnes condamnées.
D'accord.
Et il va refuser. Il ne va pas vouloir y aller, ça va mettre un certain temps.
Il va refuser déjà le prélèvement.
Il va refuser le prélèvement.
Ouais. Si on refuse, on continue à refuser, il y a une amende très très.
Exactement,
très élevée,
et puis à un moment, il n'avait plus le choix, il a été obligé de se livrer et de donner cet ADN.
Le temps a passé.
Qui a été versé dans le fichier, et là, en fait, le FNAEG, ça mouline, en fait. À chaque fois qu'il y a un nouvel ADN qui entre, il est comparé à
tous les ADN qui sont dedans.
Qui sont à l'intérieur, donc des millions et des millions de traces. Et là, jusqu'au jour où, comme disent les enquêteurs, ça match.
Ça match. Alors là, on est, d'après ce que j'ai compris en lisant aussi tous les articles qui sont parus sur l'histoire et en regardant votre film, on est vers 2005, mais les policiers ne préviennent pas Greiner que son ADN a matché. Ils vont d'abord commencer par le surveiller, l'écouter peut-être, essayer de voir un peu qui est ce type, quoi.
Hein. Exactement, là où on se dirait bingo, on a enfin identifié le bonhomme, on va le chercher. Au contraire, non, il décide de travailler sur son entourage, comme on dit, et c'est justement de savoir qui est ce type et pourquoi est-ce que d'essayer de trouver d'autres éléments, parce que l'idée c'est que les enquêteurs ne veulent pas se contenter de l'ADN, ils essayent de trouver d'autres éléments qui peuvent relier ce pompier à la victime pour étoffer le dossier
Et ils vont trouver un certain nombre que vous avez déjà évoqué ce que vous disiez tout
exactement à l'heure. Ils vont surtout découvrir que donc ce Robert Greiner avait quand même des pratiques sexuelles notamment très douteuses, vraiment très très douteuses, et qui se passait quand même pas mal de choses à l'époque.
Dans certaines casernes.
Dans cette caserne-là, qui en fait était détachée de la caserne principale, et donc où il n'y avait pas de hiérarchie, et donc où les pompiers, pas tous, bien sûr, mais évidemment, une petite poignée d'entre eux, dont Robert Greiner, faisait un petit peu n'importe quoi.
Et se livrait à des tournantes sexuelles, etc.
Exactement.
Avec des malheureuses.
Exactement. Le tout fortement alcoolisé. Donc
évidemment, ça ne joue pas en sa faveur.
Non.
Et parce que quand les policiers viennent à lui, il dit mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai rien à voir avec tout ça, mais vous connaissez Evelyne Boucher? Non, pas du tout, ça me dit rien. Il va mettre du temps à admettre que oui, ça lui dit quelque chose.
Il va faire des allers-retours, il va commencer par tout nier vraiment, je la connais pas, je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas de qui vous parlez, je n'ai jamais entendu parler de cette affaire, ni quoi que ce soit. Et puis à un moment donné, il va se lier, pas d'amitié, mais bon, il va avoir un petit contact avec un des policiers de l'escorte, à qui il va finir par lâcher qu'en fait, si, il la connaissait, il a eu une relation sexuelle avec elle ce soir-là, mais qu'il ne l'a pas tuée, qu'il l'a redéposée. Ouais. Et puis après, arrivé devant chez le juge, il va nier avoir tenu ses propos. Mm-hmm. Et puis pareil, en prison, il va continuer à dire, mais non, je la connais pas, je la connais
avec
pas.
Avec un surveillant.
Et avec un surveillant, il va aussi avouer la même chose. J'ai couché avec elle, mais je ne l'ai pas tuée. Et puis,
Dit parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de meurtre. Quoi.
Exactement.
En gros, c'est ça,
exactement. Il dit qu'il a peur qu'on l'accuse du meurtre alors qu'il a juste une relation sexuelle avec elle. Mais même sur ce point-là, il va avoir du mal à le reconnaître. Quoi.
Voilà. Mais il finit par le reconnaître. Et en tout cas, le procès s'ouvre le 7 avril 2008. Et le 11 avril, la cour d'assises du Gard le condamne pour le viol et le meurtre d'Evelyne Boucher. Écoutez, un document RTL, quelques secondes, mais le reportage de notre correspondante Aline Thibal et la réaction des parents de la jeune fille, tout de suite après l'énoncé du verdict, c'était dans le journal de Ludovic van de Kerkhove sur RTL.
Robert Greiner, 55 ans, a été condamné hier soir par la cour d'assises du Gard pour le viol et le meurtre d'une lycéenne de 16 ans en 1987, près d'Avignon. Il a été confondu par son ADN. Le reportage RTL d'Aline Thibal.
Evelyne Boucher, ce matin, aurait eu 37 ans. À quelques heures de son anniversaire, cette nuit, à l'énoncé du verdict, après 20 ans de combat mené par sa famille pour la vérité, Gisèle, sa mère, Jean-Pierre, son beau-père, s'effondrent sur le banc des parties civiles. Justice est faite, confie-t-il.
Ce combat, c'est la victoire d'Evelyne. Elle est là où elle nous regarde, elle sait qu'on s'est battu pour elle. C'est le combat de 20 ans. Ce qui lui a fait, elle avait le droit à la vie. Et lui, il a donné la mort. Donc, elle peut être fière de nous.
Dans le box des accusés en face, Robert Greiner, livide, clame comme il l'a fait depuis le début du procès son innocence. C'est scandaleux. Tu te rends compte ce qu'ils ont fait, lance-t-il en direction de son fils, comme peut-être pour mieux essayer de s'en convaincre.
Évidemment, cette condamnation à la perpétuité dans ce premier procès d'avril 2008 est pour madame la maman d'Evelyne Boucher, madame Cronier, c'est un aboutissement, parce que c'est l'aboutissement d'un combat qui dure depuis tellement d'années, et vous allez l'entendre, sa première réaction au micro d'Aline Thibal, c'était évidemment l'émotion.
Je crois que c'est son plus beau cadeau d'anniversaire, puisqu'elle aurait eu 37 ans. Et c'est ce que je voulais lui offrir, et j'y suis arrivée. Justice est faite. Et pourtant, j'avais peur. J'ai pas eu mes réponses, mais bon, quand on voit le personnage, on sait que de toute façon, il aurait rien dit, il dira jamais rien. Le premier jour, j'étais arrivée avec l'espoir qu'il risquait de craquer ou de parler. Mais quand j'ai vu à qui on avait affaire, je me suis aperçue qu'il dirait rien et qu'on n'en tirait rien. J'aurais voulu avoir les réponses à mes questions, parce que je me suis tout imaginé de ce qu'il aurait pu lui arriver. Mais bon, au moins, là-haut, elle sait que on est arrivé à ce qu'on voulait. C'est pour sa mémoire et c'est pour elle. C'est un début d'une nouvelle vie quand même qui commence, mais je pense que le combat n'est pas terminé. Vous savez, j'ai eu la force pendant 20 ans, donc j'aurai encore la force jusqu'à la fin.
Alors dans ce procès, on voit bien que pour elle, voilà, c'est la fin d'un chemin. Il y a quand même une grande question, c'est que évidemment Robert Greiner, dont l'attitude depuis le début de son procès était de nier le meurtre, de finir par admettre qu'il a eu une relation sexuelle avec Evelyne Boucher, mais cet homme va vraisemblablement faire appel de sa condamnation, selon la loi, c'est tout à fait naturel. Et dès que Robert Greiner a été condamné dans ce premier procès, eh bien, maître Patrick Gontard réagit au micro d'Aline Thibal également, qui suivait le procès pour RTL, et évidemment, il annonce qu'il va faire appel de ce jugement.
Malgré la preuve scientifique qui l'accable, son ADN, malgré le portrait dressé au fil du procès d'un homme violent avec les femmes, égocentrique, narcissique, son avocat, maître Gontard, a annoncé qu'il faisait appel.
Dils a été acquitté au troisième procès. D'autres sont acquittés en appel. Je pense que si le législateur a instauré une procédure d'appel en matière criminelle, c'est pour justement avoir une nouvelle écoute, même si en grande partie ce sont les mêmes arguments qui sont prononcés.
Alors, les mêmes arguments ont provoqué la condamnation en appel en 2009, même peine, condamnation à prison à perpétuité, et puis il y a eu, je crois qu'ils ont utilisé, ce qui est tout à fait naturel aussi, tous les arguments juridiques possibles jusqu'à la cassation, et la Cour de cassation, en 2010, a confirmé définitivement la peine de Robert Greiner. Quand vous êtes revenu sur ce procès, sur ce qui s'y est dit, parce que un film, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversations et de temps passé avec les principaux acteurs du reportage. Évidemment, vous avez dû faire des choix. Qu'est-ce qui vous reste, vous, de la manière dont cette femme vous a raconté, ou ses proches vous ont raconté, ce qui se passait en eux au moment de ce procès?
Au moment du procès, on va dire que c'est à la fois plein de choses qui se passent dans la tête de cette maman. Elle a évidemment la crainte de ce qu'on reparle de toute cette affaire. Il y a des moments très douloureux pendant les procès. On expose les photos de la victime. Le légiste vient expliquer de quelle façon elle a été tuée, etc. Donc c'est des moments très douloureux, mais en même temps, c'était un moment dont elle avait besoin pour comprendre ce qui était arrivé à sa fille, comprendre pourquoi on lui avait enlevé, et voir l'assassin enfin traînait devant la justice et enfin condamné et plus en liberté, c'était quelque chose dont elle avait absolument besoin. Est-ce qu'on peut comprendre ?
Oui, bien sûr. Et ensuite, elle a suivi, il y a eu le deuxième procès,
exactement,
ce qui est aussi une nouvelle douleur.
Qui est une nouvelle douleur, mais elle savait qu'il y avait cette hypothèse, son avocat l'y avait préparé. Donc elle s'était armée psychologiquement pour mener le combat judiciaire jusqu'au bout.
Mais en même temps, alors maintenant, si on se met du côté de Robert Greiner, on va en parler beaucoup avec son avocat dans quelques minutes, mais avant, vous avez posé cette question, c'est très délicat peut-être, c'est impossible à entendre pour une famille de victimes, que peut-être l'homme qui était dans le box n'était pas l'assassin. En tout cas, il n'a pas cessé de le dire depuis le début.
C'est vrai que Robert Greiner et ses proches, son avocat, émettent un certain nombre de doutes, mais pour la maman d'Élodie, il n'y en a pas de doute. À partir du moment où l'ADN est formel à 99,999%, tout le reste, ça n'importe pas. Ils savent, enfin, en tout cas, sa mère est persuadée que c'est bien l'assassin qui a été condamné. Après, effectivement, il y a certains éléments qui peuvent interroger, mais la conviction a été... Enfin, pour deux jurés populaires, la conviction a été que cet homme était coupable, et c'est ce que la justice a retenu, et la mère d'Evelyne aussi.
L'affaire Robert Greiner, et maintenant, on va donner, comme c'est l'usage d'ailleurs toujours, la parole à l'avocat de la Défense. Maître Patrick Gontard est en ligne. Bonsoir maître.
Bonsoir monsieur Bradel.
Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup Ayman Gwali qui avait réalisé ce documentaire, je sais pas si vous l'avez vu à l'époque. Est avec nous ce soir parce que ce film va être diffusé donc dimanche soir sur RMC Story, et on avait envie de revenir d'abord parce que à cause du côté exceptionnel de l'affaire, 19 ans d'enquête en panne et puis ensuite ce coup de théâtre énorme, sauf que ça, c'est vu du côté des victimes. Et maintenant, du côté de la Défense, de votre côté, et de celui de Robert Greiner, celui que vous avez défendu, qui a été condamné définitivement à la prison à perpétuité, lui continue, si j'ai bien compris, encore aujourd'hui, en 2020, à nier avoir tué cette jeune fille.
Toujours, je l'ai vu il y a à peu près 3 mois. Et il est toujours dans ses dispositions. Il crie son innocence du fond de sa cellule. Et on est en train d'envisager, mais on en est au stade des vérifications, de déposer un recours en révision devant la Cour de cassation.
Alors, pour déposer un recours en révision devant la Cour de cassation, il faut argumenter sur des faits nouveaux, des éléments nouveaux.
Sur des éléments. Nous en avons certaines, mais pour l'instant, je préfère rester évasif.
Oui, mais alors on vous comprend parfaitement de ne pas dévoiler vos arguments trop tôt, bien sûr. Mais si on revient à l'époque du procès, vous avez assisté cet homme et vous l'avez défendu à 2 reprises, donc un an d'intervalle, et puis ensuite il y a eu ce recours en cassation qui a été rejeté. Vous, quand vous apprenez l'affaire et quand vous occupez de ce dossier, comment vous réagissez ? Parce que, évidemment, quand on dit « mais l'ADN a matché à 99,99% » et que la personne nie avoir eu un rapport sexuel avec la victime, se pose des questions.
La position de Robert Greiner, elle n'est pas tout à fait celle-ci. Il nie le meurtre. Il ne nie pas les éventuels rapports sexuels. Et en réalité, le raccourci de l'accusation et le raccourci de la partie civile, mais je peux parfaitement comprendre la partie civile parce que une jeune fille est morte, c'est de considérer que celui qui a eu un rapport sexuel est nécessairement l'auteur du meurtre. Et Robert Greiner a toujours dit. Alors, au bout d'un certain temps, parce que c'est vrai que 10 ans après, lorsqu'on vient vous arrêter à 6h du matin et que l'on vous demande quel est votre alibi 19 ans avant, c'est pas forcément évident. Mais Robert Greiner a toujours dit, y compris devant les deux cours d'assises, qu'il avait pu avoir un rapport sexuel dans la journée avec cette jeune fille. L'explication, c'est qu'on est à proximité d'une caserne de pompiers, à proximité d'un lycée de jeunes filles, et que parfois, il y a des rencontres qui s'effectuent. Le dossier nous avait appris que ce garçon, à l'époque, avait énormément de conquêtes féminines. Mmh. Et il faut quand même voir les choses avec une certaine objectivité. Malheureusement, Evelyne Boucher, elle a un visage qui s'est arrêté dans la fleur de l'âge parce qu'elle a été tuée, elle avait à peine 17 ans, alors que lui, elle avait 34 mmh. ou 35, mmh. et on l'a jugé, il en avait plus de 50, c'était un homme âgé. Et donc, on a un peu l'imagination qui consiste à voir un homme âgé avec une jeune fille beaucoup plus jeune que lui, alors qu'en réalité, à l'époque, les deux étaient quelque part assez jeunes et, et pouvaient être amants ou avoir des relations.
Alors, cela dit, pendant l'instruction, il a quand même totalement nié avoir eu un rapport sexuel avec elle, mais il va dire après qu'il a nié parce qu'il voyait bien que s'il avouait cela, on allait en conclure qu'il l'avait tué également.
Oui, parce que, une fois de plus, comme je vous le disais, c'est un raccourci entre le tueur et l'auteur du rapport sexuel. Voilà. Donc, vous savez, c'est un dossier qui est très compliqué. D'abord, c'est un dossier complexe à l'origine, parce que c'est un cold case. Vous arrivez avec une rétroactivité de 19 ans à vous replonger dans les faits. Les lieux ont changé. Les témoins ont disparu pour partie. Ont déménagé ou sont décédés. Et vous avez une police scientifique dans les années 80 qui n'a rien à voir avec la police scientifique d'aujourd'hui.
Évidemment, bien sûr.
Y compris le recueillement des échantillons. Voilà.
D'accord.
Et dans ce dossier, en face de la preuve scientifique qui pour moi est une guillotine, j'ai voulu exposer un certain nombre d'invraisemblances du dossier. Je n'y suis pas parvenu, mais je continue à dire qu'il y a des invraisemblances.
Ouais. Alors, il y a aussi l'histoire de la voiture, parce que la voiture type Renault, il n'en a jamais possédé, apparemment.
Il n'en a jamais possédé. On a fait des recherches dans son entourage. Personne n'avait une voiture de ce type à cette époque-là. On ne sait pas s'il avait la possibilité de faire se prêter une. Bon, c'est un petit peu absurde. Vous avez aussi la présence éventuelle d'un fusil, puisque cette jeune fille avait une balle dans la tête.
Oui, une balle de 22 longs rifles, oui.
Personne n'a dit qu'il avait eu un fusil ou qu'il était un habitué du tir. On n'a jamais retrouvé d'arme du crime. On n'a jamais découvert, y compris à la caserne, dans son casier personnel, des articles de presse ou des éléments qui pourraient se rapporter à cette affaire, parce que vous savez, souvent les gens...
Oui, bien sûr.
Puisqu'on est revenu répétitivement dans ce dossier, sur ce dossier, sur cette procédure, dans les années qui ont précédé, rien du tout. Et mis à part la proximité géographique entre l'école et la caserne, et puis le fait qu'elle-même était voisine d'un pompier de Lindon, on n'a eu aucun élément extérieur, à l'exception de ce fameux témoignage d'une jeune fille qui, à 30 mètres le soir, le reconnaît 19 ans après, comme ayant passé avec le véhicule automobile et la jeune fille à l'arrière.
Bien sûr. Écoutez, on voulait que vous puissiez exposer ces points parce que, voilà, c'est la bonne marche de la justice. Elle doit tenir compte, évidemment, de toutes les positions, y compris d'une possibilité de révision judiciaire d'un procès. Évidemment, lorsque nous saurons, par votre intermédiaire, j'imagine, si vous déposez cette demande en révision, on reparlera de cette affaire. Je vous remercie en tout cas beaucoup, maître.
Et puis je salue la jeune fille qui a réaliser le documentaire parce qu'il était excellent.
Merci infiniment. L'émission est maintenant terminée. Merci beaucoup, Imane Gouali.
Merci à vous.